Bonjour bien-aimés, nous allons pouvoir commencer notre temps, notre ce culte d'adoration et de louange rendu à notre Dieu en ce premier jour de la semaine, après une semaine à droite à gauche, en église dispersée comme disent certains, eh bien nous pouvons nous rassembler ce matin pour rendre un culte à notre Dieu. Et un culte, c'est aussi épancher notre cœur. C'est peut-être pas commun, mais c'est aussi pour ça. En famille, pouvoir déverser notre cœur devant le Seigneur, soutenu par les frères et sœurs. Je vous propose de prier pour débuter ce moment. Notre Dieu, notre Père, nous voici tels que nous sommes, en tant que peuple rassemblé pour te rendre ce culte. Tu sais comment chacun vient ce matin. Certains sont dans la joie, d'autres dans la tristesse, d'autres encore en pleurs, d'autres en réflexion. Et nous voulons, avec ce que nous sommes, eh bien nous présenter devant toi. Et ceux qui ont des fardeaux, daigne s'il te plaît, Seigneur, les soutenir et qu'ils puissent te laisser leur fardeau. Et ceux qui sont dans la joie, eh bien, qu'ils puissent continuer à se réjouir en toi. Tu es notre Dieu, notre Père. Tu veux et tu fais ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ce que tu veux, c'est que nous progressions dans la sainteté. Alors chacun, selon sa problématique particulière de vie, eh bien, mène à terme, Seigneur, ce beau projet que tu as pour chacun. Nous rendre semblables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs dans ce beau et puissant nom que nous te prions. Amen. Ce matin, nous allons parcourir le psaume 40. Une fois n'est pas coutume. Vous savez, le psaume... les psaumes sont un recueil de prières mises en musique. Dommage, nous n'avons pas les mélodies, au moins pour nous rendre compte de ce que ça pouvait donner. Mais on a des musiciens modernes, comme Eric et Willy, qui pourraient nous mettre les psaumes en musique. En tout cas, voilà, ce recueil où les hommes de Dieu se sont épanchés devant notre Dieu, devant des situations terribles, devant des situations où, au contraire, ils étaient dans la joie. Et nous pouvons nous identifier, parce que l'homme foncièrement n'a pas changé. Et nous pouvons nous retrouver dans tel ou tel état de cœur, peut-être pas situation. On ne pense pas qu'un jour, quelqu'un va courir derrière nous et qu'on va se cacher dans une grotte. Comme David. Mais en tout cas, nos aspirations de cœur, nos difficultés sont à peu près les mêmes. Et dans ce psaume 40, psaume de David, qu'il compose pour le chef de cœur, celui qui menait, un meneur, « J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. » Ça commence bien. « Il s'est penché vers moi et il a prêté l'oreille à ma supplication. » Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Et quand nous sommes dans des difficultés, bien-aimés, comme David, nous sommes appelés à nous relever. Et David nous dit même que Dieu avait mis ce cantique dans sa bouche. Donc notre Dieu du fond du gouffre peut nous faire le louer. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Je pense à nos voisins qui voient quand telle ou telle situation nous arrive, eh bien, quelle est notre réaction? Ils peuvent voir Christ à travers la réaction que nous avons et révérer Dieu, lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, perdus dans le mensonge. Les cinq premiers versets pour commencer et chanter ce premier chant, Je n'ai que toi. Parce que dans tout cela, en vérité, nous n'avons que notre Dieu. C'est un chant qui dit Je n'ai que toi, mais bien qu'il ait ce je, on le chante dans un esprit communautaire, bien-aimé. Amen. Je n'ai que toi.
Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
Dieu, tu es.
Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
Près de toi.
Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien.
Près de toi, je me sens bien. Amen. Verset 6. Ô Éternel, mon Dieu, que tes œuvres merveilleuses, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est tellement grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et il était question du Seigneur Jésus qui a cité ce psaume à l'entrée de son ministère, on va dire. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de moi. Amen. C'était le verset 9. Et notre Dieu est grand et Il est digne de louange pour toutes ses merveilles, les merveilles de sa création, parce qu'il a expié nos péchés, pas à coup de sacrifices et d'offrandes, puisque les péchés, les sacrifices, le sang des animaux ne pouvait nous laver, nous purifier complètement. Alors, il a pourvu aussi à un salut durable et efficace. Pour cela, il est grand. Il est magnifique, digne de louange. Notre grand Dieu, tu es grand Seigneur.
Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur,
magnifique,
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur,
magnifique,
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur.
Encore une fois, tu es grand.
Tu es Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur,
tu es magnifique,
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur,
magnifique,
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur,
magnifique,
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur,
tu es magnifique Seigneur.
Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand.
Amen.
Tu es
bien-aimé, toute notre reconnaissance.
Magnifique.
Amen. Les versets 10 à 14. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. C'est ce que nous faisons ce matin. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Et beaucoup l'ont fait ce matin ou encore dimanche dernier. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour et ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, donc en conséquence, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Et ça peut être le cas. Mes transgressions m'accablent. Et ça devrait être le cas. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Et puis je n'ai plus de courage. Mais Éternel, veuille me délivrer. Viens vite à mon aide. Jusqu'au là, verset 14. Et heureusement qu'il est venu à notre aide, bien-aimé. Heureusement que nos transgressions, il les a prises et il nous en a débarrassés. Heureusement que par Jésus, il a expié, c'est-à-dire il a ôté la dette que nous avions vis-à-vis du péché. Et nous ne sommes plus redevables du péché. C'est ce que dit Paul, notamment en Romains 6. Heureusement que par son Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons la possibilité de rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et qui veut encore faire la guerre à nos personnes. Heureusement que par ce Saint-Esprit, son fruit peut se développer en nous. Heureusement. Heureusement que Dieu est venu à notre aide et qu'il n'a pas attendu que nous venions à lui. pouvons chanter cela. Tu n'as pas attendu, Seigneur. Et nous voulons le faire encore une fois, ensemble. Parce que le chant dit « je ». Et c'est vrai, il l'a fait individuellement. Mais nous le faisons ensemble. Reconnaissons ensemble. Tu n'as pas attendu.
Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut,
bonsoir.
Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance, pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut,
ton amour,
ton amour, ton salut, ton amour, ton salut.
Est-ce qu'on peut rechanter ça, bien-aimé, en a cappella? Reçois ma reconnaissance,
Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus. Pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut.
Amen. Parce que bien aimé, sans Jésus et son sacrifice, nous serions perdus.
Quant à mon Dieu, tellement aimé le monde, il a donné son fils unique. Après tout, pourquoi on dit n'est-ce plus? Oui, il a parti. Mais nous n'avons pas péri. Nous aurons la vie en Jésus. Nous avons de nous tes enfants. Vraiment la vie du Dieu, certain, encore vivant et permanent, qui dit nous le sommes. Quelle reconnaissance. Tu nous as parlé, tu viens. C'est toi. Au contraire, c'est nous qui t'es péché. C'est nous qui t'es arrivé de pardon. Et tu viens de pardon. Quel amour, quelle grâce. Oh Seigneur. Nous demandons ce matin, Seigneur, notre souhait, que ton esprit ouvre notre esprit. Afin qu'ils comprennent l'amour qui t'a témoigné en Christ Jésus, nous qui étions coupables. Mettez ton esprit en nous, Seigneur, pour nous avoir l'esprit de pardon, l'esprit de miséricorde. À toi, Seigneur, la gloire. À toi, Seigneur, vraiment du bonheur. À toi, Seigneur, toute la gloire. Parce que, Seigneur, nous t'avons dit, tu mérites toute la gloire. Toute l'adoration, c'est pour Jésus-Christ. Merci. Merci. Soutenez-nous, Seigneur, dans les difficultés. Fortifie-nous. Affermis l'Église dans la foi. Parce que nous vivons dans un temps, Seigneur, difficile. Mais tu ne nous abandonnes pas. Nous savons, Seigneur. Merci. À toi, toute la vie.
Amen. Merci. Merci, frère Iras, pour ta prière. Pour toute l'assemblée. Verset 15. Et nous irons jusqu'à la fin ensuite du psaume. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il batte en retraite, qu'il soit déshonoré, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'il soit paralysé sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Et nous savons qu'à cette époque, il en était ainsi, ces hommes de Dieu qui demandaient à Dieu, à première lecture, le malheur de ceux qui leur en voulaient. Mais à deuxième lecture, ils demandaient à Dieu qu'il exerce sa justice en vérité. Ce qu'on a appelé, c'est parti là, les imprécations où ils demandaient des choses. Par contre, nous savons que celui qui inspirait le cœur de ses adversaires, ses projets sont toujours les mêmes pour envers nous, notre adversaire. Il veut toujours notre malheur. Mais gloire soit rendue au Seigneur par sa mort sur la croix. Il a été écrasé. Il a été écrasé. Sans cet écrasement, nous ne serions pas là, bien-aimés. Et un jour, tout cela va tourner définitivement à notre faveur, lorsque Jésus reviendra nous prendre. Au même moment, notre ennemi et tous ses anges, tous ses acolytes, seront pour leur part hors d'état de nuire pour toute l'éternité. Ont du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais c'est pourtant le cas. Verset 17, « Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'égaient en toi. Et que tous ceux qui aiment ton salut, et nous aimons le salut du Seigneur ici, n'est-ce pas? Eh bien, qu'ils redisent constamment que l'Éternel est grand. » Est-ce qu'on peut redire ça? Que l'Éternel est grand. Amen. Que l'Éternel est grand. Amen. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi. Amen. Jusque-là, ce psaume, ce très beau psaume, que nous pouvons reméditer encore. Et heureusement encore que chaque jour, notre Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. C'est notre prochain chant. Chaque jour, tu ne nous abandonnes jamais. Mais surtout, en conséquence, je veux marcher dans tes voies. Nous voulons toujours le faire dans un esprit communautaire. ce matin, chaque jour.
Je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher chaque jour. Je veux marcher dans tes voies chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi, et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu as passé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour.
Chaque jour,
chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour
que je répands devant toi. Amen, amen. Nous t'adorons, ô Père. Ce dernier chant que nous allons prendre ce matin comme une prière et puis comme une préparation à entendre ce que notre Dieu aura ce matin à nous dire par son serviteur, notre frère Eben. T'adorons, ô Père, dans ton temple.
Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en Esprit, en vérité.
Nous t'adorons encore une fois.
Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en Esprit et en vérité.
Car un jour,
car un jour. Désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Nous t'adorons, ô Père,
dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison,
car un
Seigneur.
Jour, car un jour,
je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Je désire
habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Notre
Dieu, notre Père, nous voulons nous placer devant toi maintenant, prêts à entendre ta voix, prêts à entendre l'exhortation, l'encouragement que tu veux nous adresser ce matin. Et alors que nous allons le faire imparfaitement, toi interviens afin que, Seigneur, cela puisse entrer parfaitement. Nous avons le Saint-Esprit qui nous permet, Seigneur, de modifier nos comportements et notre entendement. Donne-nous à entendre à travers la bouche de ton serviteur ta voix. Que ce qu'il a préparé, que tu puisses t'en saisir et avec ce qu'il est, qu'il puisse nous communiquer de ta part. Avec véracité, avec vérité, comme ta parole. Te demandons du coup, parce que c'est une responsabilité, nous te demandons une onction spéciale sur lui, afin qu'il puisse se laisser conduire. Seigneur, parle parce que ton peuple écoute. Amen.
Bonjour, frères et sœurs. À raison de dire que c'est une responsabilité, j'aurais préféré qu'il ne le dise pas. Parce que quand il parle de la responsabilité, vous ne pouvez pas imaginer les poids que ça a sur mes épaules. Oui, tu dirais, et puis tu pars te cacher. La paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Merci. Ça a été la semaine pour chacun d'entre vous? Alors, quoi. Je vais juste vous dire, comme la dernière fois, le frère Raymond, dans une intervention, nous a dit que nous ne le connaissions pas, c'est vrai. Il a juste essayé de se révéler pour nous dire qu'il était un tout petit peu. Moi, je vais juste dire un tout petit mot, mais je ne vais pas rester longtemps parce que ce n'est pas le sujet. La parole de Dieu pour moi est puissante. Ça transforme, ça change. Lors, dans les années 82, j'étais jeune garçon, 10 ans, 11 ans. Et puis, j'étais dans une école, c'était un établissement construit, fondé par les Américains. Alors, le bâtiment, c'était un bâtiment scolaire, en même temps, c'était un bâtiment, les enfants devaient venir à l'église. Parce que de cette époque-là, comme c'était une école religieuse, de cette époque-là, les enfants qui ne venaient pas à l'église les dimanches, eh bien, le lundi matin, il y a ce qu'on appelait la direction. Je ne sais pas si on dit toujours ce mot, la direction, mais on devait se présenter à la direction pour aller s'expliquer pourquoi on n'était pas là. Alors donc, on risquait de se faire bastonner. Oh oui, c'était comme ça. C'était comme ça, de mon époque. Ah oui. C'était rigide. Hein? Et puis, un dimanche matin, moi qui ne voulais pas me faire bastonner, j'étais tout petit. Alors, la distance, c'était long. Hein? C'était long, il fallait marcher, il n'y avait pas de bus dans ma province d'où je suis originaire. Il fallait quasiment 13-14 kilomètres. Et puis, il y avait un monsieur ce dimanche matin-là qui a parlé. Je vais vous dire, un garçon de 11 ans, 10 ans. Je ne pouvais pas comprendre. Et le monsieur a parlé l'histoire de David et de Goliath. Voilà la parole que j'ai entendue, 1 Samuel 17. Voilà la parole que j'ai entendue ce jour-là. Et j'étais seul de retour. J'étais seul en route. Il y avait certaines actions qui se produisaient déjà dans mon cœur. Et tout autour de moi, je voyais personne, mais c'est comme si j'étais accompagné, il y avait plein de gens tout autour de moi. Mais dans mon petit cœur d'enfant, sur la route du retour, je sentais en moi un bouillonnement, je sentais en moi un bouleversement, je ne pouvais pas comprendre, mais seulement j'ai entendu ça. Tenez-vous bien, je n'étais pas en âge de faire tout ce qui est exégèse. Je ne pouvais pas comprendre. Mais la seule chose, je sentais en moi, il y avait un bouillonnement, une transformation. Et avec le temps, et je n'étais pas encore converti, hein, mais c'est avec le temps, je comprends, c'était l'œuvre du Saint-Esprit en moi, par cette parole. Alors la parole, c'était tout simplement David qui a terrassé Goliath. C'était ça, hein. C'était ça qui m'a bouleversé, avec des petites fontes, et puis Goliath qui était un homme, un guerrier. Voilà, par la puissance du Saint-Esprit, David a pu le terrasser. C'était juste un petit témoignage me concernant, non, c'est pas autre chose. Vous êtes là? Ce que je souhaite, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je souhaite partager avec vous. En lisant ce texte, je me sentais richement béni. Je me dis, si ce texte me font du bien, il peut faire aussi du bien à l'Église de Jésus-Christ. Je vous propose de lire ce texte, Jean chapitre 15. Au verset 16. Jean chapitre 15, au verset 16. Merci. Alors, je lis sur le rétroprojecteur. Qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Nous lisons ensemble, si vous voulez bien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je peux m'arrêter là, parce que c'est ce qui concerne notre encouragement ce matin. Je titrerai cet encouragement, c'est Jésus qui parle. Quand nous lisons tous les chapitres 15, nous voyons que c'est Jésus qui parle, et arrivé au verset 16, qui donne ce mandat aux disciples. Alors, je titrerai cela, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Le choix que Jésus a fait de ses disciples, il y a une cause. Jésus ne les a pas appelés pour être assis, pour rester immobiles, figés, mais il leur donne une mission. Pour introduire notre exhortation de ce matin, je vais vous prendre des exemples. Et ce sont des exemples qui nous sont communs dans la vie de tous les jours. Le premier exemple, un commerçant qui, par exemple, qui investit dans une affaire. Ce commerçant en question attend à un bénéfice. Sans quoi, à quoi ça sert d'exercer cette activité? Vous voyez, ça c'est dans la vie courante, hein, cet exemple. Alors, le commerçant qui exerce cette activité, il a besoin certainement d'avoir un bénéfice, sans quoi ça ne sert pas à grand chose. Deuxième exemple, c'est pour introduire notre méditation. Deuxième exemple, vous et moi, qui sommes parents, nos enfants, nous sommes tous passés par là, par ces étapes-là, à la crèche, mais nous attendons qu'ils grandissent. De la crèche à l'école, ils sont passés en petite section, après les petites sections, grande section, CP, hein, ainsi de suite, terminale, jusqu'à ce qu'ils aillent tout ce qui est des grandes écoles. Nous attendons ça d'eux. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi je prends ces exemples-là pour me faire comprendre par ce propos. Jésus parle, comme je donne dans le titre de cet encouragement, je vous ai choisi. Comme dirait un frère parmi nous, allô, vous êtes là?
Oui.
Vous êtes là? Je vous ai choisi. Jésus n'a pas choisi ses disciples parce que c'était un mérite, ou bien parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils étaient capables de faire quoi que ce soit, parce qu'ils étaient puissants, parce qu'ils étaient, je sais pas. Mais Jésus les a choisis pour une cause juste, pour un but précis. Le texte nous dit, j'aimerais bien que tu le laisses échapper, s'il te plaît. Le texte nous dit, c'est moi qui vous ai choisi. Moi, je m'interroge en lisant le texte, je me mets en question, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, ça c'est la cause, afin que vous alliez. Mais allez où? Allez où? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais de quel fruit il s'agit? De quel fruit il nous parle ici? Je vais prendre le mot fruit, après je reviendrai sur le verbe aller. Comme ces derniers jours, Stéphane a parlé de ce mot, oui, dans sa présidence dimanche matin. Puis les pasteurs également, encore mardi soir, il a parlé de ça. Alors, nous savons que la liste du fruit que l'apôtre Paul nous dresse, en Galates chapitre 5, verset 22, ils sont au nombre de 9. Ils sont au nombre de 9. Vérifiez, hein, pour ne pas dire que Frère Ben a dit. Non, mais c'est sérieux, parce qu'aujourd'hui, on entend tellement de choses. Donc, ils sont au nombre de 9. Mais pourquoi ces fruits? Ces fruits, alors je ne les cite pas, mais ils sont au nombre des 9. Je crois que c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, hein, si je ne me trompe pas, la fidélité, la maîtrise des soins, la douceur. Ils sont au nombre des 9. Mais quand, pourquoi ces fruits? Et c'est lorsque les difficultés surgissent, les abus, les méchancetés frappent à nos portes. Et c'est à partir de là, nous allons voir comment réagit le chrétien qui a ce fruit-là en lui. Voilà pourquoi Jésus nous demande de porter, d'avoir ce fruit en nous. Maintenant, je vais prendre « aller ». Pourquoi Jésus ne nous a pas choisis, encore une fois, je précise, Jésus ne m'appelle pas pour rester assis. Je vais vous dire, sauf l'évangile de grâce peut faire de moi ce que je suis, parce que je ne me vois pas moi pour être sur scène, être ci, être ça. C'est que l'évangile de grâce qui peut faire tomber plein de barrières pour me mettre debout, pour parler au nom de Jésus-Christ. Mais sinon, je me vois mal comment je pourrais vous parler. Pour moi, ça serait très, très difficile. Allez porter du fruit, d'accord? On est bien d'accord. Pourquoi porter du fruit? Mais aussi, aller où? Je vais légèrement parler de Paul, mais c'est pas le sujet de ce matin. Rappelez-vous, Paul a eu 3 grands voyages missionnaires. Mais aller, ça veut dire que Jésus ne nous a pas choisis pour rester là où on est. Je suis sauvé, mais Jésus nous donne un mandat, une mission, c'est afin d'aller vers les autres. Aller vers les autres, je crois que c'est un... Parce que s'il n'y avait pas d'autres gens qui étaient venus, moi je ne serais pas là, moi. Et s'il n'y avait pas d'autres gens qui étaient venus aussi vers vous pour parler, pour vous parler de l'évangile, vous ne seriez non plus pas là. C'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un assurément qui vous a parlé. Je vais juste vous donner un petit témoignage. Encore, je me rappelle, toujours petit garçon, j'ai eu ma grand-mère. Par exemple, le texte, Exode 14, verset 14, ça c'est ma grand-mère, lorsqu'elle priait. Deuteronome 6, verset 16, c'est toujours ma grand-mère. Psaume 103, toujours ma grand-mère. Psaume 91, toujours ma grand-mère. Elle ne savait ni lire ni écrire. Mais quand elle priait, elle récitait ses paroles, et bêtement comme ça, moi je les assimile comme ça. Donc, voilà, et aller ici, c'est que vous et moi, nous avons une mission. Et un minimum, même si nous ne pouvons pas aller comme l'apôtre Paul, mais chez nous, avec nos enfants, avec nos voisins, j'ai trois frères. À mon petit niveau, je leur ai exposé l'évangile. Ils vivent comme ils veulent, je ne suis pas responsable. C'est que nous devons aller, l'église de Créteil, nous devons aller dans votre travail, chez vous, autour de vous, dans le voisinage. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ce que je vous dis là, je le fais dans mon voisinage. Et ils me connaissent tous dans ma rue. J'ai une voisine à droite, j'ai un voisin en face, ils me connaissent. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas pour... Et ils ont un certain respect pour moi quand ils me voient. Ah oui, sincèrement, ils me connaissent. Donc, je leur dis qui est l'évangile. Je les ai offert, chacune de ces familles, une Bible. Donc, c'est pour vous dire que je ne vous dis pas quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai pas fait. Moi, c'est ça, à mon petit niveau, j'ai essayé de le faire. Alors, ces mots-là, l'église, chrétien, et les fruits en question, c'est pas que les pasteurs, ou les diacres, ou les dames missionnaires, c'est chacun de nous, nous devons avoir en nous ces fruits. Le deuxième point, aller ici, c'est pas ni les pasteurs, ni le corps diaconat, ni les anciens, c'est une affaire de tous. Aller ici. On n'a pas besoin de faire grand chose, hein, mais on peut prêcher l'évangile tout simplement par certaines réactions. Maintenant, je vais vous inviter de voir Jean chapitre 4. Ça va changer ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir quelques personnes à qui Jésus s'est présenté et après, quelle a été leur attitude. Quelques personnes, Jésus s'est présenté, nous allons voir leur attitude après avoir fait la rencontre de Jésus. Frères et sœurs, merci frère. Je suis en Jean chapitre 4, versets 28-29. Regardez une femme, je me dis que l'épisode de la vie de la femme samaritaine, les textes précédents, vous les connaissez déjà. Vous connaissez déjà ce parcours. Je n'ai pas besoin de vous présenter tout ce texte. Vous les connaissez déjà. Mais je risque de revenir de temps en temps là-dessus pour vous montrer son parcours. Et de son parcours d'avant et maintenant. Regardez avec moi le texte. Alors, c'est qu'il y a plein de choses précédemment au verset 28. C'est dans une discussion avec Jésus. Il y a une transformation quand Jésus lui a présenté. Jésus lui a dit des choses. Il y a une transformation qui s'est produite dans la vie de cette femme. Cette femme se dit, zut alors, je ne peux pas rester comme ça, je dois parler. Et si vous saviez sa vie d'avant, vous diriez non, pas elle qui parle comme ça. Je réponds, si vous connaissiez sa vie d'avant, vous diriez, c'est pas cette femme-là. Je dis, si vous voulez, je vous demande de prêter attention, s'il vous plaît, parce que je vous dis la parole de Dieu, elle transforme. Elle transforme. Et donc, de ce que je veux vous parler, voilà l'une des personnes qui a été transformée, touchée par Jésus. Je dis, alors la femme, ayant laissé sa bruche, j'ai essayé de tourner tout autour pour comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce fait cette dame de sa bruche? Parce qu'elle est partie chercher de l'eau. Non, mais c'est pas en France. Enfin, on va dire plutôt, c'est pas dans le temps moderne aujourd'hui. Nous avons tout chez nous. Enfin, comme dans mon pays. Je dis pas chez vous. Mais comme dans mon pays, c'est difficile pour aller chercher de l'eau. Ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, la parole de Dieu transforme. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, dit Jésus. Et je reprends, cela ne concerne pas seulement le pasteur, ni les anciens, ni le corps diaconat. Je dis, c'est une affaire de tout le monde. L'évangile de grâce, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde. Ayant laissé sa cruche, s'en alla. Vous allez voir, si j'aurais peut-être le temps, simplement ce texte-là, ça me demanderait du temps. Parce qu'on voit maintenant, la femme en question, la samaritaine en question, elle rentre en action. Regardez. Ayant laissé sa cruche, s'en alla. Ici, c'est en mouvement. Hein. Elle a laissé son lieu. Elle a pris la route. Là, elle est en mouvement. Elle est en mouvement. Elle s'en alla où? Dans la ville. Et fait quoi? Dire aux gens, bien-aimés, frères et sœurs, lorsqu'on est en Christ, on ne peut pas rester bouche fermée.
Quand on est touché par l'évangile de grâce, si je remonte, rappelez-vous, en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre a prononcé un discours. Après, le peuple, l'auditoire, après écouter Pierre, ils se disaient, mais que ferons-nous? Ils sont touchés par la puissance du Saint-Esprit. Ils s'interrogent, que ferons-nous? Vous connaissez la suite. La dame s'en alla dans la ville et dit aux gens, bien-aimés, ne partez pas, hein, ce que je vais dire là. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Waouh! Waouh! Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Le Christ ici, c'est le Messie, hein, signifie roi des dieux. Comme je vous disais, si vous connaissiez le passé de cette femme, on dirait cette femme. Cette femme, le texte nous dit en Jean, de cette époque-là, on avait l'habitude d'aller chercher de l'eau le matin ou le soir pour éviter la clameur, la densité de la chaleur. Mais vis-à-vis de sa vie passée, cette femme, vous connaissez l'histoire. Mais cette femme était en train de fuir le regard des uns et des autres. Cette femme était en train de fuir le regard des uns et des autres. Et cette femme, voilà quelqu'un qui avait peur de croiser le regard des autres. Est-ce que vous suivez avec moi? Voilà quelqu'un qui avait peur de rencontrer les gens. Après sa rencontre, maintenant cette femme se dit, écoute, bref, que Marie dise, que Jocelyne dise, donc c'est leur affaire, mais maintenant moi, ce qui m'importe, c'est que maintenant je dois témoigner, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Vous imaginez si le Saint-Esprit, en cet instant même, Seigneur merci, veut dévoiler toute ma vie devant vous là. Je serai le premier à prendre la porte là. Ah, ma soeur, moi je parle de moi. Je parle que de moi. Si, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Imaginez-vous dans votre vie passée, dans votre jeunesse et ta vie maintenant. Jésus se présente. Vous vous rappelez en Acte chapitre 5, ce qui s'était passé avec Ananias et Saphira? Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Attention. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Frères et sœurs, chose étonnante, on va dire plutôt paradoxale. Là, frère Eric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, lui mettre le verset 39-42, s'il te plaît. Son appel a été entendu. Son invitation, parce qu'il a dit, venez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Là où elle a annoncé, pardon, parce que j'ai tendance à laisser, pardon. Donc, son appel a été entendu. Et voilà que le texte au verset 39 nous dit que plusieurs Samaritains de cette ville coururent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Vous êtes là avec moi? Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons témoigner de ce que Jésus a fait. Plusieurs Samaritains de cette ville coururent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et le témoignage, c'est que les Samaritains, à leur tour, ils disent que il m'a dit, voilà, c'est le témoignage de la femme, hein, il m'a dit tout ce que je fais. Et voilà, lorsque Jésus a dit, à cette femme à révéler sa vie, disons-nous plutôt la révélation de Jésus-Christ face à cette femme. Jésus veut montrer, c'est un peu difficile à comprendre, Jésus veut se révéler à cette femme pour faire comprendre à cette femme, elle connaît tout d'elle. Tout. Alors, elle m'a dit tout ce que je fais. Verset 40, les Samaritains vinrent le trouver, c'est-à-dire Jésus. Ils le prièrent de rester. Et ce qui m'a frappé dans le texte, au verset 41, un peu plus grand nombre coururent à cause de sa parole. C'est-à-dire que là, il y a un enchaînement, non seulement le témoignage de la dame vis-à-vis de ses concitoyens, ou bien de ces gens de la ville, ils ont couru, et après, à leur tour, eux, ils vont demander à Jésus de rester. Et pendant ce, vous allez voir un peu plus loin, verset 41, un beaucoup plus grand nombre courut à cause de sa parole. Je lui disais que ils sont un tout petit peu incroyables. Regardez, au verset 10, au verset 42, voilà ce que dit ce même monsieur, au verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, c'est que nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. D'accord, mais qui vous en a parlé? Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends que c'est pas vraiment... Elle vous a parlé, vous avez cru, vous avez accepté. Mais vous trouvez que la chose est bonne. Mais dites au moins, elle est pour quelque chose. Non, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu, moi je vous dis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, j'ai 4 enfants. J'ai 2 qui sont au Seigneur. J'ai 2 autres qui restent à la maison, qui ne partent pas, qui ne vont pas à l'église. C'est vraiment pour moi, chaque fois que je sors de l'église, quand j'arrive à la maison, je leur dis, Jésus envoie le bonjour pour vous. Je leur dis ça. Et non seulement je dis que Jésus envoie le bonjour, vous envoie le bonjour, et après je leur dis, il vous attend dimanche prochain. Hein? Je dis ça comme ça. Alors, voilà. C'est que la parole de Dieu, nous devons faire en sorte, comme je sais qu'il y a la timidité, je vois ça, je sens ça, mais nous avons besoin de sauter le pas, d'annoncer l'évangile de grâce. D'annoncer l'évangile de grâce. Alors, voilà. Maintenant, je vais prendre Jean, chapitre... C'est comme si je sens que j'ai quelque chose que je n'ai pas soulevé dans le texte, parce que pour moi, je sens que... Oui. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais le Saint-Esprit va l'ajouter à ma place, parce que c'est lui l'enseignant, il connaît nos cœurs, il nous connaît tous. Ce que je n'ai pas... qui ne m'est pas venu à l'esprit, mais le Saint-Esprit est capable de les compléter à ma place. Je vous invite de regarder Jean 1er. C'est pour vous dire que toujours, les témoignages, nous devons dire ce que Jésus fait. Parler de Jésus, c'est pour nous, pour moi, je sens que même si je sais qu'il y a la timidité qui est là, mais il faut faire en sorte de briser ce lien et puis de parler de Jésus pour raconter ce qu'il fait, ce qu'il est. Jean chapitre 1er, verset 40. Merci frère. Alors, je parlais tout à l'heure de la femme samaritaine, et nous allons voir, je veux établir une différence, c'est que la femme samaritaine était allée dans la ville pour annoncer ce que Jésus lui a dit. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Moi, je me dis, si Jésus se présente à moi, là, en présence de vous, me dit tout ce que j'ai fait, je serai le premier à prendre la parole. Parce que j'aurais tellement honte, je ne tiendrai pas. Et la dame a eu la force, le courage d'aller dire voilà. Et ça, c'était dans la ville. c'était dans sa ville à lui, elle a été dit aux gens, voilà ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus a transformé sa vie. Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Maintenant, nous allons voir ça, c'est plutôt dans un cadre familial. Regardez. André, frère de Simon, Pierre, pour ne pas que j'oublie, Simon, nous allons voir ça. Simon a rencontré Jésus. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui avait dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il les conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Christ. Cephas, ce qui signifie Pierre, c'est bien de suivre. Pour la femme samaritaine, c'était dans un cadre, c'était dans une ville, mais là, c'est dans un cadre familial. Je voulais vous dire un petit quelque chose. André, c'était l'un des apôtres. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 10, nous trouvons la liste, du nom des apôtres. André en fait partie. Vous allez voir, à partir de là, on n'entend plus parler d'André. Et le texte est important, j'ai essayé de tourner dans toutes les versions. Le texte nous dit, André, il a rencontré Jésus. Et déjà, il y a quelque chose qui a transformé la vie d'André. C'est lorsque André a entendu la parole de Jean. Alors ici, quand je dis Jean, c'est Jean-Baptiste. André était le disciple de Jean. Jean a entendu cette parole dans la bouche. André a entendu cette parole dans la bouche de Jean qui disait que voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. André, de son passé dans le judaïsme, judaïsant qu'il était, qui connaissait les sacrifices qui se faisaient dans le temple, quand il a entendu l'agneau des dieux, André s'est démarqué, il a laissé Jean, il est parti suivre Jésus. Et le texte nous dit, André, frère de Simon, et c'est lui le premier qui a rencontré Jésus. Après cette rencontre, c'est très important. Verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Je prie toutes les versions pour voir est-ce qu'il n'y a pas, à mon niveau, hein, j'ai essayé de regarder toutes les versions. Toutes les versions disent la même chose. Soit il y en a qui disent d'abord, il y en a qui disent le premier, dans un cadre familial, frères et sœurs. Je me dis, moi, si c'était moi, par exemple, mon fils qui a eu son bac, j'aurais pris mon téléphone d'appeler mon frère pour lui dire, mon fils a son bac, son permis, j'aurais dit pareil, j'aurais appelé mon frère pour lui dire, voilà, mon fils a son permis. Aussi, une promotion dans mon travail, j'aurais, tu sais, j'étais à 3000, maintenant je passe à 5000. J'aurais fait ça, mais vous savez que, regardez, le texte au verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et qu'est fait André? Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Parce qu'il savait que le Messie était promis, il devait venir. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour André de communiquer à son frère Pierre sa rencontre avec Jésus. Bien-aimé. Jésus sait absolument tout de nous. Tout. De même, Jésus, dans la vie de la femme samaritaine, je vais juste dire un petit mot là-dessus, quand Jésus lui a dit, tu vas chercher ton mari. La femme dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus jette et met sur elle une douche froide. Tu en as déjà eu 5. Les derniers, pas ton mari. Ça veut dire quoi? Le péché, ou bien ce qui se passe au fond de nous, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas cacher quelque chose à Jésus. Il connaît tout. Et là, pourquoi je prends cet exemple? Au verset 42, il le conduisit vers Jésus. Regardez. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon. Je me dis, est-ce que il y avait une connaissance? Est-ce que, et lorsque André a présenté Simon à Jésus, est-ce que il y a eu une conversation pour lui dire, bon voilà, je suis le frère de Pierre, je suis son aîné, ou bien il est mon grand frère. Non, les textes, ça j'essayais de comprendre. C'est que là, il faut voir que là où Jésus, il le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, Jésus voit tout, et Jésus lui dit, tu es Simon. Ici, Simon, dans certaines recherches, on nous dit que c'est son nom hébreu. Et un peu, Jésus lui dit, là, il y a une prophétie qui est faite à l'égard de Pierre. Hein. Il va lui dire que ton nom sera transformé. Juste un petit quelques détails, je vais dire. Nous pourrions lire ou dire que un Simon des Simons. Vous, lecteurs de la Bible, vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle du chinois, là. Eh bien, oui. Ah oui. La rencontre de Simon, cette rencontre-là, chamboule, transforme la vie de Pierre, hein, parce que c'était Simon, son nom. Et là, lorsque Jésus l'a rencontré, il lui dit, tu seras appelé Pierre. Et ce face, on nous dit, c'est son nom araméen, et Pierre, c'est son nom grec. Donc, Jésus lui dit, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Bien-aimé, regardez bien pour voir les services que André a rendus à l'église de Jésus-Christ. Et c'est de ce Pierre. André l'a présenté à Christ, et ce Pierre-là, le jour de la Pentecôte, est-ce que vous voyez ma démarche, d'où je pars et d'où je suis en train d'aller vers vous? Et c'est ce Pierre-là que André a présenté à Jésus, et c'est de lui, le jour de la Pentecôte, c'est ce Pierre qui va délivrer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il y avait combien? Environ 3000 ans. Et en plus, ainsi de suite, tout ce que Pierre a fait, l'œuvre de Pierre dans l'Église, je ne veux pas mettre Pierre comme dit certaines dénominations, mais quand même, Pierre, c'est quelqu'un qui a rendu beaucoup de services dans l'œuvre du Seigneur. Alors voilà, j'arrive presque à la fin. Je vais essayer de récapituler, de prendre tout ce que j'ai essayé de vous exposer. Le sujet, c'était Jésus qui parle, je vous ai choisi. Le choix que Jésus a fait de nous, Jésus ne nous a pas choisi pour que nous restions assis, mais il nous donne un mandat. Le mandat en question, c'est d'aller. Aller où? C'est d'aller annoncer l'évangile, que ce soit dans nos familles, le plus proche. Si nous ne pouvons pas aller au-delà, mais déjà dans nos familles, dans nos voisinages, c'est déjà un pas. Et aussi de porter du fruit. Et du fruit en question, comme je vous ai dit, pourquoi Jésus nous demande cela? C'est face à certaines situations, lorsque les adversités, les abus, alors c'est ce fruit-là, et ce fruit qui est en nous. C'est avec ce fruit nous allons, suivant notre comportement, les uns des autres peuvent faire la différence de nous, enfants de Dieu, et ceux qui ne sont pas encore, je dirais encore, parce que Jésus veut nous sauver tous. Et nous voyons que la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine, Jésus l'a dit, sa vie, et cette femme a été touchée, et du coup, cette femme était dans l'obligation. Cette femme ne pouvait pas rester dans son coin. Elle est partie dire aux autres, voilà ce qu'un homme m'a dit. Et nous voyons ce qui s'est passé après. Et nous voyons aussi avec André, qui a rencontré le Messie, qui a communiqué cette bonne nouvelle à son frère Simon, et qui devient après un homme formidable dans l'œuvre du Seigneur. Tout ça, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas rester bouche fermée pour ne pas parler de Jésus-Christ. Et j'arrive à la fin, je vais juste prendre le texte de... Je ne l'avais pas signalé, frère. Luc chapitre 9, verset 26. Et entre-temps, je vais dire que Paul va nous dire, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Je sais que ça, je le sais, que c'est une barrière très souvent pour les uns et les autres. Mais c'est pas ce texte-là. Je vais prendre, je vois ma sœur derrière qui commence à cliquer sur son téléphone. C'est plutôt Luc chapitre 9, verset 26, qui nous dit que... Luc 9, verset 26, voilà ce que nous dit ce texte. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire, de celle de son Père et de ses anges. Voilà, c'est une recommandation pour nous, c'est que avoir honte de Jésus-Christ, voilà. C'est que Jésus veut que nous parlions de lui, que nous annoncions, que nous l'annoncions et que nous disions ce qu'il est, ce qu'il fait dans nos vies. Voilà. Voilà à quoi nous que Christ, Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a pas sauvés pour rester assis, comme je le dis, je le répète, mais Jésus nous appelle pour être à son service. J'espère que ces paroles vous bénissent. Je m'arrête là. Que la paix du Seigneur soit avec vous.